France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, en effet, nous allons apprendre à chanter, mais aussi à mieux parler en compagnie de Jean-Philippe Lafon. L'illustre baryton qu'on ne présente plus ajoute aujourd'hui quelques cordes à son arc, comme d'interpréter les chansons populaires ou d'apprendre à nos hommes politiques à mieux s'exprimer. Il paraît qu'Emmanuel Macron a pris quelques leçons avec lui. Nous en parlerons en musique et avec piano en direct dans un instant avec Jean-Philippe Lafon. En fin d'émission, la chronique de Serge Laïc sera consacrée à Claude Boline. Quant à moi, je me demande ce que j'ai dans les pattes ce matin. J'ai une terrible envie de danser le twist.
T'es pas tombé sur la tête, t'es pas un petit peu dingo. Ma parole t'a une grosse bête qui ronge ton petit cerveau. Et l'ami qui nous inquiète, fais-toi passer une radio. T'es pas tombé sur la tête. Tu as bu 22 whisky, on sait bien que c'est ta fête, mais n'oublie pas tes amis. Si l'on craque une allumette, ça va faire un incendie. T'es pas à tomber sur la tête, te voilà déshabillé. Tu es taillé en athlète, mais faut pas exagérer. T'as plus que des supports chaussettes, ton corps va te remarquer. T'es pas à tomber sur la tête de vouloir faire un carton sur les bouteilles d'anisette alignées dans le bar du fond. Avant de presser la gâchette, regarde déjà l'addition. Tomber sur la tête d'aller dire à ton voisin que ça paraît une chouette et que tout l'amoisserait bien. Tu peux planquer ta galette car c'est le percepteur du coin. T'es pas tombé sur la tête, ne fais pas le zéro. Ma parole t'a une grosse bête qui ronge ton petit cerveau. Mais si t'entends des clochettes, c'est que c'est l'heure de faire dodo. De faire de dodo.
T'es pas tombé sur la tête par Mac. Cac, c'était le pseudonyme de Jean-Baptiste Rey. Il paraît que c'est le premier twist, autrement dit le premier morceau de rock enregistré en France et en français. C'était en mai 1956, à peu près au même moment que les grands succès de Bill Haley. Vous pouvez retrouver ce morceau parmi beaucoup d'autres dans le coffret Yé Yé VOVF qui vient de paraître chez Frémo et Associés.
Thank you.
Ça, c'est encore avant les Yéyés. C'est un des premiers disques de Marcel Azola, Escadrille, sur un thème de Joe Privat, enregistré en 1951. Tout cela pour vous dire, vous qui aimez l'accordéon et vous qui admirez Marcel Azola, prenez date, le 24 juin prochain, le samedi 24 juin, nous fêterons ensemble les 90 ans de Marcel Azola, en direct, en public, à Radio France, au Studio 105. Vous êtes bienvenus, il y aura autour de Marcel Azola beaucoup de musiciens, comme Lina Bossati, André Mainviel, Marc Perron, Christian Escoudé, beaucoup d'autres encore, je vous en reparlerai, mais prenez déjà le rendez-vous.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et sans plus attendre, nous avons rendez-vous, nous, aujourd'hui avec mon invité, un invité qui a chanté les plus grands rôles d'opéra, mais qui ne dédaigne pas non plus l'opéra comique et l'opérette. Et puis aujourd'hui, eh bien, il se passionne pour la chanson française, chanson d'aujourd'hui, chanson d'autrefois, et il pratique même ce qu'on appelle le coaching vocal. Nous allons tout savoir sur ce sujet dans un instant. D'autant plus que ce sera aussi en musique, puisqu'il est venu avec un ami pianiste, et ce sera donc en compagnie de Jean-Philippe Lafond.
Le temps de boire est écoulé. Il nous faut de l'ivrognerie, secouer le joug amoré, secouer le joug amoré. Entendez-vous, venant des villes, clamez la paix du débitant. Par l'alcool séduisant, nous arracher à nos familles, à l'œuvre tempérant, point de la sonorant. Chantons, vivons, et plein d'ardeur. Marchons en conquérant. Chers amis de la tempérance, debout pour sauver les buveurs, délaissons notre indifférence, unissons nos voix et nos cœurs, unissons nos voix et nos cœurs. Les liqueurs, l'alcool et la bière vont ruiner notre beau pays. Ils feront d'un vrai paradis un enfer sur tout un cimetière. À lèvres tempérant, point de lâche en orant, buvons, chantons, et plein d'ardeur, marchons en conquérant.
Bonjour Jean-Philippe Lafond.
Bonjour.
Vous avez un peu bu?
J'avais en effet un peu bu. Oui. C'était pour la Ligue anti-alcoolique, il fallait donner l'exemple, n'est-ce pas?
Voilà, c'est une version, hein, il faut dire, de la Marseillaise qui date vraiment de la Première Guerre mondiale.
Absolument.
Et qui a été effectivement conçue pour aider à lutter contre l'alcoolisme. Ça s'intitule La Marseillaise des tempérants. Vous êtes d'ailleurs avec un merveilleux pianiste qui s'appelle Cyril Laine qui a fait ce disque avec vous.
Hein. Merveilleux compositeur également.
Voilà, on sent, il s'amuse avec la musique. Et ce disque, donc, La Grande Guerre en Marseillaise, toute une série de versions plus ou moins extravagantes ou très patriotiques de la Marseillaise. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ce disque?
Oh, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Je pense que c'est le ministère de la Défense qui a demandé que l'on enregistre ce CD.
À l'occasion de la
CD.
Commémoration de la Première Guerre mondiale.
Absolument. Voilà. Et Didier Maes, qui a donc cette firme de disques, petite firme de disques.
Hortus.
Hortus, voilà. Lyonnaise. Il fait de très très belles choses. Il a eu cette idée, il a eu cette opportunité. Et il y a également deux très beaux poèmes écrits par des poilus. Il y en a un qui est très long, qui est d'une émotion folle. Et je pense avoir entendu que quand il a eu fini d'écrire sur le front ce poème, il a été déchiré et déchiqueté par un obus. Et au bout de sa main, il y avait le papier qu'il venait d'écrire, qui lui était intact. Donc,
eh oui, c'est très,
rendons-lui hommage.
Très touchant, et ça permet de vous retrouver. On va y revenir d'ailleurs aussi bien comme, j'ai envie de dire, comme comédien, comme homme du parler, que comme homme du chanter. Vous avez toujours aimé l'un et l'autre, même si on vous connaît surtout évidemment à l'opéra. D'ailleurs, vous avez pris goût, hein, à ces chansons historiques. Vous avez donné il y a quelques mois, je crois, dans la saison musicale des Invalides, toute une soirée justement de chansons de la guerre.
Hein, absolument, voilà. Par deux fois. Les Invalides ont un très grand répertoire de chansons d'époque, n'est-ce pas ? Et pas uniquement guerrières, hein, des chansons du peuple, tout à fait délicieuses. Et j'ai eu, encore une fois, par deux fois, l'honneur et l'avantage de les chanter, une fois dans la cathédrale et une autre fois dans cette grande et belle salle des illustres, là, au premier étage.
Oui. Voilà, donc une de vos activités actuelles, Jean-Philippe Lafond, parmi beaucoup d'autres qu'on va évoquer. Il faut quand même dire, on y reviendra peut-être un instant tout à l'heure, que votre vie a un petit peu changé depuis ce terrible accident que vous aviez eu à l'Opéra Bastille en septembre 2016, il y a donc moins d'un an, mais qui vous a physiquement beaucoup atteint. Hein.
Oui, c'était le 14 septembre, j'entrais en scène dans la Tosca, à mon premier sacristain, je voulais absolument m'amuser.
Vous avez été un Scarpia d'anthologie, voilà. Auparavant.
Et j'ai voulu aller à la rencontre de ce sacristain bien sympathique. Et bon, ça ne m'a pas porté chance parce que, en entrant à vue du public en scène au premier étage, je n'y suis pas resté longtemps sur ce premier étage. Je l'ai gringolé aussitôt.
Et oui, ça a été.
Et me cassant le genou. Enfin, voilà. Et aujourd'hui encore, j'ai de grosses séquelles et je pense que le 14 septembre dernier a été la fin de ma carrière.
Scénique. La voix est là toute entière,
oui,
on se rassure.
Scénique, je pense que j'avais le pied relativement marin et que sur une scène, je me débrouillais pas trop mal. Eh ben, ça, c'est du passé parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà.
Bon, on ne sait jamais. Soyons pleins d'espoir de vous revoir quand même sur scène. Mais en tout cas, on va continuer à vous écouter chanter aussi. Et j'ai envie, avant qu'on parle un peu d'actualité, en plus, vous êtes venu avec quelques chansons qu'on va découvrir ensemble, mais qu'on revienne sur deux ou trois moments de votre carrière qui me touchent particulièrement dans cette émission de musique légère. Quand je pense par exemple à votre professeur, votre cher professeur, Denise Duplex, qu'on retrouve ici dans un enregistrement de ses jeunes années.
Cette direction D'abord, on part d'un pied léger, chaussé d'une fine bottine. On va jasant, on va à jasant, pour abréger la longue route ou l'autoroutine. Le nez au vent, l'œil dédaigneux, alerte et cambre le corsage. On se moque des vieux messieurs qui vous font risette au passage. Relevant de sa blanche main sa jupe si fait de la crotte, on trotte. Et dame, il faudrait être sotte pour ne pas faire son chemin. Relevant de sa blanche main on trotte. Et dame, il faudrait être sotte pour ne pas faire son chemin. Le soir, on revient en flânant jusqu'à la maison maternelle. Un jeune homme, un jeune homme, au premier tournant de la rue, est en sentinelle. Pendant quelques jours, il s'émeut et de premiers refus qu'il essuie. Mais on accepte un soir qu'il pleut son cœur avec son parapluie. Et dans la pomme, le lendemain, quand on a planté sa culotte, on trotte. Et dame, il faudrait être sotte pour ne pas faire son chemin. Et dans la pomme, le lendemain, quand on a planté sa culotte, on trotte. Et dame, il faudrait être sotte pour ne pas faire.
Victor Roger, Joséphine Vendu par ses sœurs, chantée par Denise Duplex. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, Jean-Philippe Lafon?
Ça m'émeut beaucoup, surtout.
Oui.
Plaisir est faible. Ça m'émeut beaucoup parce que je sais que Denise a passé son premier prix d'opérette avec ce rôle.
Avec ce rôle, précisément.
Avec ce rôle. Ah, oui. C'est une dame aujourd'hui qui a 90 ans, superbe.
Que vous voyez toujours beaucoup, vous avez une grande fidélité.
J'y vais cet après-midi d'ailleurs, la rencontrer. Donc, qui a 90 ans, merveilleusement portée. Voilà, et je pense qu'elle avait passé son premier prix au Conservatoire de Paris, son premier prix d'opérette, elle avait 19 ou 20 ans, vous voyez, ça date... quelque peu.
Là, c'était en 1965, alors un peu plus tard, dans la troupe radio-lyrique.
Ah, ça, c'était là-bas. C'était pas son concours.
Non, non.
Et on voit la précision du mot qu'elle m'a inculqué, que j'essaye
de transmettre
aux jeunes, de passer le témoin, parce que, à cette époque-là, cette génération-là, ténor, baryton, soprano, on les comprenait parfaitement. Les mots n'étaient pas dissimulés derrière des voix.
Grossi,
artificiellement. Enfin, on chantait comme on parlait, quoi.
Vous lui devez beaucoup à Denise Duplex.
Oh ben je lui dois tout, allez.
Ah, carrément.
oui, carrément, oui. Sans elle, j'aurais été professeur d'éducation physique ou bon médecin de campagne. Voilà, j'aurais fait quelque chose d'intéressant, j'espère. Néanmoins,
d'ailleurs, vos parents toulousains, qui n'étaient pas du tout du milieu lyrique, mais vous ont quand même plutôt encouragé dès que votre vocation s'est un peu révélée, hein.
Ils m'ont encouragé quand ils ont surtout rencontré Madame Duplex,
qui les a persuadés,
parce que papa et maman, évidemment, étaient tellement éloignés de ce monde que...
Ils aimaient Luis Mariano.
Ah, papa aimait Luis Mariano, ça ouais. Absolument. Pour lui, c'était le nec plus ultra. Il n'avait pas tort, parce que Mariano était ouais. La joie de chanter, très bien d'ailleurs, avec une voix ensoleillée au combien. Bon, ça n'allait pas plus loin, la connaissance de l'art vocal n'allait pas plus loin. Mais déjà, c'était un bon début, me semble-t-il.
À l'époque de vos débuts, vous-même, chez Denise Duplex, j'ai lu que vous ne connaissiez pas encore le solfège et que vous pensiez que quand il y avait la lettre P sur une partition, ça voulait dire puissance.
Oui, et alors elle
au lieu
dit,
de piano.
Évidemment, et puis elle me dit, mais alors force. F, ben je lui dis force. Alors et la musique se résume pour vous en force et puissance.
Ah
j'ai
ouais
dit, oui, mais il faut qu'on nous entende dans les salles, chère madame. Voilà, moi j'avais évidemment quelques progrès à faire dans tous les domaines, dans ce monde qui m'était tellement étrange.
Alors, une autre étape importante, faut le rappeler, parce que on parle souvent aujourd'hui de la disparition des troupes, c'est Louis Herlot qui vous a recruté dans ce qu'on appelait l'Opéra Studio, qui a été une très bonne école de formation pour toute une génération de chanteurs. On peut dire que c'était une vraie troupe au sens ancien du terme, cet Opéra Studio ?
Oui, une troupe qui était formée de jeunes artistes sortant des conservatoires, de Paris notamment. Et moi, j'avais été engagé après une demi-douzaine de jeunes qui sortaient du Conservatoire supérieur de Paris. Et je n'avais pas été engagé comme stagiaire parce que je n'avais pas du tout leur niveau. Et j'avais été engagé comme pré-stagiaire.
Pré-stagiaire, voilà, une voilà catégorie intéressante.
C'est une catégorie intéressante. Oui, le problème, c'est que on était payé. C'est ce qui est formidable.
Et, ouais.
Et j'étais payé la moitié des autres. C'est normal. Pré-stagiaire, c'est pas stagiaire. Donc, j'ai eu cette chance-là. Louis Herlot a été déterminant, bien évidemment, dans ma vie. Et je l'ai eu au téléphone il y a une quinzaine de jours.
Ah,
normalement,
oui,
je devrais aller le retrouver fin mai à Lyon pour parler justement de l'Opéra Studio, parce que j'écris un livre pour les éditions Larousse. Et donc, je vais évidemment avoir un chapitre sur l'Opéra Studio à qui je dois tant.
À qui vous devez tant. Et à la suite duquel, alors vous vous êtes trouvé entraîné finalement quand même très tôt dans votre carrière dans toute une quantité d'enregistrements d'opéras français, la Muette de Portici, la Belle Hélène, Fra Diavolo, d'abord les Offenbach avec Manuel Rosenthal. Comment ça se fait que vous ayez fait finalement tant de disques et de beaux disques qu'on conserve aujourd'hui dans nos discothèques si vite?
Bah, écoutez, j'ai commencé par un répertoire bouffe,
ouais,
parce que Denise ne voulait absolument pas que je commence trop tôt les rôles dramatiques, ouais, les rôles épais, je veux dire, qui n'étaient pas bons pour la voix d'un jeune baryton. Donc j'ai attendu en compagnie de Joyeux Drille, n'est-ce pas, de tous les,
voilà,
les ouvrages que vous venez de citer. Donc, ça a été l'antichambre des rôles dramatiques qui, voilà, devaient venir quelques années après.
Si je représente Zéphyr, ma voix vole légèrement. Si c'est en fleuve qu'on m'admire, ma voix roule comme un torrent. Assis dans la prairie, charmé les nymphes par mes chants. Des habitants de l'Arcadie, dois-je prendre des doux accents? Oui, des choristes du théâtre, je suis vraiment la fine fleur de ma voix. Chantez en cœur, marchons, marchons, frappons, combattons, marchons, marchons, girons, marchons, combattons, rions, chantons, buvons, dansons, et guéguéguer, rions, chantons, buvons, dansons, guéguer, rions, guéguer, rions, dansons, et ma voix, on est idolâtre, quand on m'entend chanter en cœur, quand on m'entend.
Le postillon de Longjumeau d'Adolphe Adam. Et voilà, bah, toutes les bonnes leçons que vous a transmises Denise Duplex. Hein, on l'entend dans ce sens que vous avez là de l'opéra comique, l'entrain, la qualité de la diction. Et puis alors, les aigus aussi même, hein, plus des graves là.
Oui, je suis surpris. J'avais oublié cet air. Et je suis ravi de l'entendre parce que ce n'était pas si mal. Allez.
Ah, c'était pas mal du tout. C'était en 1985 sous la direction de Sir Thomas Fulton, donc un de ses enregistrements de l'époque, et qui, donc bien sûr, ça, on n'a pas besoin de le redire sur France Musique, on précédait la grande carrière qui a été la vôtre. Si on s'interroge quand même sur les rôles où vous avez été le plus vous-même, le plus heureux, on irait du côté de Verdi, de...
Il y en a quatre.
Oui.
Pelléas et Mélisande, Golo, évidemment.
Bien sûr.
Au passage, notre deuxième fille
s'appelle Mélisande.
Mélisande.
Magnifique.
Donc, Pelléas et Mélisande, Wozzeck,
oui.
Frauenschatten,
La femme sans homme.
Le baraque, La femme sans homme de Strauss. Et
vous avez même dit que c'était peut-être votre rôle préféré, baraque.
Peut-être le meilleur,
ouais.
Oui.
Ouais, ouais.
Le meilleur, parce que me ressemblant de A presque jusqu'à Z, allez.
Ouais.
Et Falstaff. Voilà, pour en venir à Verdi, que vous citiez, c'est les quatre rôles phares de ma vie. Il y en a eu d'autres, il y en a eu 100 ou 105 ou 106, mais les quatre piliers de ma vie, les quatre rôles qui ont fait avancer l'homme que je suis.
Rôles et trois langues, l'allemand, le français, l'italien. Ce qui n'était pas forcément le cas de la génération ou des générations qui vous ont précédé, d'ailleurs celle de Denise Duplex et de tous ces chanteurs qui chantaient pratiquement uniquement dans leur langue. C'est un gros changement de cette époque.
Oui, rien n'était traduit, ils chantaient tout. J'ai entendu d'ailleurs avant-hier La Pira de Trovatore de Tony Ponce en français. Ben, je trouve que ça avait beaucoup de gueule.
Vous n'êtes pas contre, donc.
Ah, je ne suis pas contre du tout. Je ne suis pas contre du tout. À Toulouse, d'ailleurs, Plasson, à une époque, il y a une trentaine d'années, avait monté La Flûte Enchantée avec deux distributions. Alors, la première était en allemand, la deuxième était en français. Et je dois dire que ça tenait très très bien la route. Hein. C'était une très belle traduction. Pourquoi pas ?
Mais pour passer d'une langue à l'autre, qui ne sont pas vos langues maternelles, est-ce que ça demande un travail très spécifique?
Ah oui, ça demande un travail.
Comme pour un étranger de chanter le français, pour vous de chanter l'italien ou l'allemand, ça a été un apprentissage?
Ça a été un apprentissage sérieux, sévère.
Ouais.
Il faut s'adresser... Moi, l'allemand, par exemple, je l'ai travaillé avec Lou Bruder, qui était l'ancien mari d'Origine Crespin, qui était un germanophone, un germanophile extraordinaire, et qui parlait allemand mieux qu'un allemand, je dirais, qui avait une rigueur de syntaxe, une rigueur de prononciation. On entrait véritablement, non pas dans la langue, mais dans la matière, non pas sonore de la langue, mais dans sa matière vivante, n'est-ce pas ? Le mot exprimer non pas une traduction littérale comme ça, mais exprimer un état d'esprit, un état d'âme, une intelligence profonde. Il m'avait dit, quand Telramund, au début de Lohengrin, à l'entrée de Telramund, s'adresse au roi Heinrich, « Dank, König dir, dass du zu richten kamst »,« Merci au roi d'être venu ici pour juger des problèmes que nous rencontrons ». Il me disait, c'est très bien, c'est très allemand ce que tu dis, mais c'est pas ça du tout. Parce que tu t'adresses à un roi, on s'adresse pas à un roi comme on s'adresse à un copain. Alors, rien que le premier mot, dank, merci, on dit pas merci, on dit merci.
Ouais,
on laisse
bien sûr, c'est pas de la même
attendre
façon.
Le mot. Et là, et dans toutes les langues, c'est un peu pareil. Hein.
Ouais.
Si vous voulez marquer les esprits, je donne beaucoup de coaching vocaux actuellement. Et si vous voulez marquer les esprits, il faut laisser attendre les mots clés. Il faut les faire désirer. Voilà. Donc c'est une façon de rendre intelligent le propos et de sublimer. Ou de sublimiser le mot lui-même, qui alors décolle littéralement.
On va vous retrouver tout de suite, Jean-Philippe Lafond, dans un de ces quatre rôles. J'avais peur de mal tomber, on est en plein dedans. Un de ces quatre grands rôles que vous avez cités, que vous avez aimé particulièrement, c'est le Falstaff, enregistré avec John Elliott Gardiner en 2001. C'est un bon souvenir, cet enregistrement.
Excellent souvenir.
Grand chef.
Grand chef, et il débutait aussi, lui, dans ce répertoire. Musicien comme il est, comme il était, comme il est, il reste. Ça lui a été facile de donner à ce Falstaff ses grandes lettres de noblesse orchestrale, vocale. Enfin, il a été extraordinaire, John Elliott.
Hey, Pancho, andati al pendenti, ma non più a me. Quel che le prende è il tuo signore. Non sei il posto, corri via, e scompa, e scompa,
Quelle richesse, quelle variété musicale en 4 minutes, hein, Jean-Philippe Lafond, dans ce premier acte de Falstaff.
J'allais dire, c'est un feu d'artifice.
Un feu d'artifice, oui.
C'est musical, c'est dramatique, c'est simple.
Ouais.
Ce qui est formidable, c'est cette simplicité qui se dégage de ce moment impétueux. C'est naïf.
Le naturel.
C'est naturel. Oui,
ce que vous disiez pour Duplex tout à l'heure aussi, dans un genre complètement différent.
Tout à fait.
Le naturel.
Oui, oui. Ouais. Et là, le naturel revient au galop parce qu'il les poursuit, ces ivrognes-là, qui sont toujours, qui resteront ses amis, il les poursuit pour carrément leur taper dessus, quoi. Hein. C'est galopant, tout ça. C'est vivant, c'est jaillissant.
Voilà, en tout cas, on le réentend avec infiniment de plaisir, ce beau disque de Falstaff, Gardiner, Lafont, en 2001. Dans ce retour très, très synthétique, très rapide, sur quelques moments de votre carrière et quelques figures qui vous ont accompagné, encouragé, soutenu. Alors, on a cité Duplex, on a cité Herlot. Si je devais en citer un troisième, est-ce que ce serait Hugues Gall, par exemple?
Ah oui.
Ah oui.
Certainement. Oui. Hugues Gall, grand directeur
de l'Opéra.
De l'Opéra de Paris. Qui avait été l'assistant d'un très très grand aussi, Rolf Liebermann, que j'ai connu.
Avec qui vous avez fait vos débuts à l'opéra?
Avec qui j'ai fait mes débuts, absolument. Ouais. Qui était un grand tribun, n'est-ce pas? Et Hugues, qui me permet de l'appeler Hugues, et je l'en remercie, ouais. Qui a été, et qui le reste encore. Quand on a été, on reste. A été ce grand personnage de notre art lyrique, et qui a donné, lui, la chance à beaucoup de chanteurs français de s'extraire, je dirais, de la masse.
Vous voulez dire que c'est plus vraiment le cas?
C'est un petit peu moins le cas. C'est un petit peu moins le cas. Voilà. Voilà. Enfin, nous avons de très beaux et de très belles chanteuses français et françaises aujourd'hui.
Bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours tellement à leur place dans les grands opéras français, malheureusement.
Voilà. Mais enfin, je cite toujours parce que, vous savez, quand on prend de l'âge, on peut tomber dans une certaine agressivité vis-à-vis des nouveaux arrivants. Et moi, pas du tout, justement, je suis ravi. Là, il y a deux barytons. Il y en a un qui est confirmé, évidemment, largement, c'est Ludovic. Oui. Ludovic Désier, qui est remarquable en tout point. Et puis un autre qui est encore plus jeune et qui est déjà remarquable et avec qui je travaille de temps en temps. C'est Florian Sempé.
Bien sûr.
D'ailleurs, qui demain, je crois, va faire ses débuts dans le Zourka des Pêcheurs de Perles au Théâtre des Champs-Élysées en concert. Deux grands barytons d'aujourd'hui et de demain. Voilà, et je suis ravi de les citer parce qu'ils le méritent grandement.
Justement, d'ailleurs, la transmission, l'enseignement, c'est quelque chose qui vous est très, très cher, Jean-Philippe Lafont. Et on va y revenir aussi en musique. Alors, parce que vous allez nous expliquer peut-être d'abord en quelques mots, puis. Vous êtes très gentiment venu donc avec des partitions, avec un de vos amis pianistes, Patrick Villanueva. Alors on a un piano devant nous et vous allez par exemple, là je crois, nous chanter Les Feuilles Mortes. Alors expliquez-nous un peu dans quel esprit.
Écoutez, j'ai toujours eu envie de chanter la chanson française,
ouais.
De chanter ce texte et de louer ces merveilleux interprètes qu'étaient et que restent encore une fois Montand,
ouais.
Reggiani.
Ouais.
Becco,
oui.
Nogaro.
Vous les avez toujours aimés.
Je les adore, mais ce sont des monuments. Ouais. Donc j'ai toujours voulu, à mon tour, chanter leur succès.
Ouais.
C'est une musique, c'est un monde qui me touche particulièrement. Aujourd'hui, j'ai malheureusement, ou plutôt heureusement, le temps de les découvrir, de les travailler, d'entrer en leur mystère. Parce que on chante pas une chanson comme cela sur le bit du bout du banc, n'est-ce pas ? Non, c'est aussi une préparation, une technique particulière, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, nous en parlerons peut-être plus tard, je veux faire le rapprochement, autant que faire se peut, le rapprochement entre le parler
et
le chanter.
Voilà. Et ça, c'est une de vos activités, pas d'enseignant, ou comme on dit aujourd'hui, de coach, pour prendre un mot
d'actualité,
anglais.
Oui.
Voilà. D'actualité, on va en parler dans un instant. Alors, je vous propose, cher Jean-Philippe, de rejoindre Patrick Villanueva près du piano, et déjà de nous chanter, mi-parler, je crois, mi-chanter, ces feuilles mortes de Prévert et Cosma.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans
dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Les feuilles mortes, merci, merci Jean-Philippe Lafond, merci Patrick Villanueva. Vous nous rejoignez, Jean-Philippe, voilà, écoutez, quelle joie de vous entendre là, effectivement, parler et chanter. Vous pensez d'ailleurs que il y a un lien profond entre l'art du chant français tel qu'il existe à l'opéra et l'art de la chanson française. Ce sont deux mondes qui ont des liens étroits.
C'est la porte à côté.
Ouais.
On sort d'une pièce pour entrer dans l'autre. Ouais. Et d'ailleurs, les gens avec lesquels je travaille le mieux parlé, ouais, journalistes, politiques, chefs d'entreprise, qui ont besoin, ouais, pour leur discours, sur un plan professionnel, de s'aguerrir, de s'améliorer, de projeter mieux, de se, ouais, faire mieux comprendre, entendre, je leur dis très simplement, vous pouvez parler, vous pouvez chanter. Et il, ouais, y en a certains qui me disent un peu timidement, pourriez pas nous donner quelques conseils, quelques tuyaux, quelques clés, quelques outils pour chanter, parce que j'aimerais bien chanter chez moi, je n'ose pas parce que j'ai peur que mon épouse, mon mari, mes enfants se moquent de moi. Il y a une pudeur à chanter. Et puis en plus, je chante faux, je chante mal. Je les rassure en leur disant, c'est normal que vous chantiez faux et mal. Bien sûr que vous chantez faux et mal. Vous n'avez jamais appris à chanter juste et bien. Mais maintenant, si vous en avez envie, le premier pas est fait. Entrons dans cette seconde pièce et puis essayons de voir ce que nous pouvons y trouver.
Donc il y a une continuité, au fond, de la langue française entre la langue parlée, la langue de la chanson et la langue lyrique. Tout ça, c'est voisin.
Bien sûr, le bien émettre le parler, accentuera les qualités d'un chanteur pour le mieux chanter. Chaliapine, il y a plus de 100 ans, disait « Je ne chante jamais un rôle que je n'ai jamais parlé au préalable. » Il parlait tous ses rôles.
Mais quand je vous entends, en même temps, je me dis « Eh oui, il y a la question de l'accent aussi, parce qu'il rythme la phrase, alors qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui parlent très vite, sans intonation, etc., qui avalent un peu les syllabes. »
Tout qui ont peur des silences.
Voilà.
C'est dans les silences qu'on se recharge, c'est dans les silences que l'auditoire entend et comprend ce que vous venez de dire. La ponctuation est d'une importance capitale, un point fini, une idée, un point virgule, c'est un pont, un tout petit peu plus long qu'une virgule.
Oui, mais oui.
Tout ça, c'est remarquable. Et justement, ça doit être remarqué.
Mais qu'est-ce qui vous a conduit, alors on l'a compris, donc à devenir ce professeur de personnes publiques, on y reviendra dans un instant, qui veulent apprendre à mieux s'exprimer en public. Ça vous est venu comment?
C'est-à-dire, avec Denise, quand nous avons mis en place le Pelléas et Mélisande, le Golo,
oui, tu vois,
on a travaillé pendant des jours et des jours et des week-ends entiers, oui, assis sur un canapé, sans chanter une note,
oui,
mais en parlant le texte.
Mais
je ne pourrais plus sortir de cette forêt.
Oui. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à le faire pour les autres et à l'enseigner ça aujourd'hui, comme vous
parce
le faites aujourd'hui?
Parce que vous venez de le dire, les gens parlent trop vite, on ne les comprend pas. Si vous allumez la télévision, la météo par exemple, on ne comprend pas s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil, parce que les filles, elles sont adorables, elles connaissent bien leur métier, mais elles ne projettent absolument pas leur intelligence et leur savoir. Donc, tous ces gens...
Mais ils viennent vous voir spontanément. Vous avez ouvert un cabinet de consultation.
Il y en a qui viennent me voir, il y en a qui viennent me voir, il y en a que j'aimerais voir et qui ne viennent pas et qui ne viendront jamais. Mais bon, il y en a un, par contre, qui est venu.
Alors
voilà. Et alors, lui, bon, voilà.
Donc, en un mot, vous avez fait travailler sa voix à notre nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu ces discours dont tout le monde s'était un petit peu moqué au début, parce qu'il se voulait très lyrique, mais la voix ne suivait pas toujours. Et alors, c'est à la suite de ça ou...
C'est à la suite de ça. Sylvain Faure, le remarquable Sylvain Faure, qui est le patron de Forum Opéra, ouais, entre autres.
Qui est un proche de Macron.
C'est son monsieur communication. Sylvain m'a demandé de faire travailler Emmanuel Macron. Alors, très bien. J'ai dit oui tout de suite. C'est vrai que tout le monde a en mémoire à cette porte de Versailles. Maintenant, il faut l'oublier.
C'était en décembre
dernier. Parce qu'il est parti. Bon, il est parti sur les chapeaux de roue devant des milliers de gens. C'était la première fois qu'il était face à une foule vociférante. Il s'est laissé absorber, phagocyter par ces milliers de gens qui criaient déjà Macron président toutes les 15 secondes. Donc, il est certain que... Bon, mais comme j'ai dit à Emmanuel, maintenant, d'ailleurs, je ne vais plus l'appeler Emmanuel, je vais l'appeler Monsieur le Président. Je ne l'ai pas encore vu en tant que président, mais je ne vais pas me permettre de l'appeler Emmanuel, sauf s'il me demande de continuer à l'appeler Emmanuel. Mais c'est monsieur le président. Eh ben, je lui ai dit, c'est pas mal d'être parti aussi bas, il faut bien le dire, parce que vous venez de faire de tels progrès qu'on dira, bon, ben, il savait pas trop, et il a pris ses dispositions pour faire mieux, et ô combien mieux, n'est-ce pas?
Donc vous allez peut-être, dans un deuxième temps, le préparer à nous chanter des chansons, voire des airs d'opéra.
Ah ben, je lui ai fait faire un exercice, un exercice conjoint, Rémi Fa dièse, donc, sur cette tierce-là, qu'il a très bien fait, qu'il a très bien compris, ça l'a fait sourire, mais oui, un jour il chantera, vous verrez.
Alors, Jean-Philippe Lafontière, pour faire une petite pause, justement sur l'art de la diction, et dans un contexte électoral comme celui qu'on a vécu pendant des mois, j'ai retrouvé une petite chanson de chansonnier. Je ne sais pas si vous aimez les chansonniers
d'autrefois.
Vincent Ispa qui chante une soirée électorale.
Les papillons ont voltigé, les députés ont bourdonné. Des feuilles de toutes couleurs poussent au nez des électeurs. Il en pousse le long des murs et dans les boîtes à ordures. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. À la veille des élections, j'entre dans une réunion. Il y avait des femmes, des électeurs, des chiens, des puces, des orateurs. Un air à couper au couteau, comme dans les secondes du métro. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. Chacun son bureau de tabac, hurlait un jeune candidat. Plus de proprio, plus de frontières, citoyens, on est tous des frères. Mais derrière moi, un électeur lui répondit, ben ta sœur, c'est le mai, c'est le joli mois de mai. Toute la salle, les yeux sur moi, s'écria bas le sale bourgeois. Tout près de moi, un gentleman qui portait une grosse canne, en me traitant de sale vendu, me saisit par la peau du... C'est le mai, c'est le joli mois de mai. Avec ma tête, avec mon dos, j'encaisse les plus beaux pruneaux. On me casse 14 dents, sur le derrière et sur le devant. Et je me retrouve dans le ruisseau, sans bretelles et sans croquenot. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. On me rapporta ce soir-là chez moi dans une voiture à bras. Le lendemain, je restais couché et je n'ai pas pu aller voter. Mais j'avais mon nom dans le journal et une fièvre de cheval. C'est le mai, c'est le joli mois de mai. jus pendant 8 jours, le citron enveloppé dans du coton. Mais je m'étais fait une opinion, ces réunions ont du bon. On y apprend la boxe et le chausson, et ça ne vous coûte pas un rond. C'est le mai, c'est le joli mois de mai.
20 Ispa en 1932, ça vous plaît, Jean-Philippe Lafont?
C'est délicieux.
Hein, c'est pas un chanteur, vraiment, c'est tout simple, il y a 3 notes, mais...
Mais si, c'est un chanteur parce qu'il donne de la musique, ouais. On entend sa musique, on entend son émotion, son lyrisme, ouais. Il nous amuse, c'est très plaisant d'entendre ce monsieur.
Réunion électorale de Vincent Ispa, puisque vous avez été, si on peut dire, un des hommes de cette campagne électorale. Juste un mot encore à propos d'Emmanuel Macron, Jean-Philippe Lafont. C'est peut-être plus difficile, quand on fait des meetings, d'avoir, comme c'est son cas, une voix qui est plutôt dans l'aigu qu'une grosse voix grave comme la vôtre. Bah,
c'est-à-dire ce que nous avons essayé de faire, Emmanuel, Monsieur le Président, et moi, c'est de trouver un petit peu le focus de sa voix.
Voilà.
L'important, c'est de trouver le centre d'une voix, parce que c'est là que la qualité est la plus belle. N'est-ce pas ?
Et nous, c'est comme d'apprendre à un chanteur à savoir quelle est sa voix, d'une certaine façon.
Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. De trouver sa juste tessiture. Et puis après, on travaille autour d'un noyau central pour... faire en sorte que l'aigu et le grave soient d'égale qualité. Mais la qualité première est vraiment dans ce noyau central de la voix qu'il fallait trouver chez Monsieur Macron et qu'il est en train de trouver pour, un, de toute façon, garder son intégrité vocale, n'est-ce pas ? Parce que si on est à côté de la plaque, si on est à côté de ce noyau, on a toutes les chances du monde de se fatiguer, varices sur la corde vocale, nodules sur la corde vocale, et puis on en arrive à parler comme ça, et puis après on est complètement en faune, voyez-vous, donc voilà.
C'est votre grande amie, Roselyne Bachelot, qui a été à l'origine de cette rencontre ?
C'est Roselyne qui m'a fait connaître Sylvain Faure.
Qui est un passionné d'opéra.
Qui est un passionné d'opéra et qui est un monsieur exceptionnel.
Mais sinon, donc, si moi j'ai envie de faire une carrière politique et de travailler ma voix, je peux venir vous voir.
Ah oui.
On frappe à la porte. Il y a un cabinet Lafont.
Mais pour vous, là, ne frapperez pas à la porte. La porte sera ouverte. Donc, vous arrivez sans frapper.
Non, mais il semble que vous avez beaucoup d'élèves en coaching.
Oui, vocal. Mais j'ai quelques députés.
Ah oui.
Alors, je ne dis pas leur nom parce que
c'est intéressant. C'est vraiment un art qui se développe.
Il y a quand même une confidentialité là bien aussi. Sûr. Mais pour M. Macron, c'est pas la peine. Tout le monde le sait. Donc, j'ai essayé de garder autant que faire se peut le secret. Mais après,
c'est sorti
un peu partout.
Bon, Jean-Philippe Lafont, vous nous avez dit que suite à ce terrible accident de septembre dernier à l'Opéra, la scène, en tout cas pour l'instant, c'était terminé pour vous, mais la voix, comme je l'ai dit tout de suite, ça continue à très bien marcher. Alors vous êtes venu aussi avec un air d'opéra. On réécoutera peut-être une chanson tout à l'heure, mais vous avez choisi un air d'André Chénier, de Giordano.
Oui, le nemico della patria de Giordano.
Vous l'avez chanté d'ailleurs
Ah oui, plusieurs fois. Et qui demande évidemment un matériau, une maturité vocale. Je conseille à tous les beaux et jeunes barytons de ne pas se frotter à ce genre de répertoire avant quelques années, voire décennies. Voilà, parce que ça peut être particulièrement dangereux. C'est beau, mais dangereux. Voilà. Comme souvent tout ce qui est beau, belles choses dangereuses. Les bons plats sont dangereux.
Et là, vous voulez dire que vous êtes au bon moment de votre vie et de votre voix pour chanter ça?
Oui, ça fait quelques années que je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Je crois que je ne le rechanterai plus jamais en scène, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai dû le faire aux alentours de 47, 48 ans, mais pas avant, certainement pas avant, parce qu'il y avait le Cerbère, Denise Duplex qui veillait.
Ah, toujours.
Ouh là 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 là.
Je vous laisse rejoindre le piano et Patrick Villanueva, Jean-Philippe Lafont.
Gioia
passar fra gli ori e le vendette, puro, innocente, forte, gigante, mi credea, son sempre un servo, o mutato padrone, un servo obbediente di violenta passione, a peggio ucciso e tremo. E mentre uccido, io piango. Io della Redentrice figlio, bel primo udito il grido suo pel mondo, ido al suo il mio grido unito. Or smarrita ho la fede nel sognato destino, come il ray radiato di gloria il mio cammino. Nel cuore ride starve le genti, raccogliere le lacrime dei vinti e sofferenti, fare del mondo un panteon di uomini indegni. Tutte le genti amare in un sol bacio e abbraccio, tutte le genti amare.
André Chénier de Giordano, magnifique musique que vous nous donnez spécialement ce matin en direct pour les auditeurs de France Musique avec au piano Patrick Villanueva. Vous nous rejoignez, merci Jean-Philippe Lafond. Merci, merci encore d'être venu avec de la musique aujourd'hui. Et je voudrais encore, peut-être avant qu'on écoute une dernière chanson de celle où vous aimez mélanger aujourd'hui le parler, le chanter, le répertoire populaire et la vraie musique. Je voudrais revenir à votre engagement assez fort, finalement, pour un chanteur lyrique grande vedette, comme vous l'êtes, pour la musique de votre époque, pour les compositeurs en activité. Vous avez chanté Jean-Claude Petit, vous avez chanté Alania, le frère de Roberto, vous avez chanté Vladimir Cosma, vous avez chanté à l'Opéra de Lyon récemment une création du très talentueux Thierry Esquèche. Je ne sais pas si c'est un bon souvenir pour vous.
Excellent souvenir. Et d'ailleurs, Thierry est le professeur. Il ne l'est plus maintenant parce que le petit a démarré. Était le professeur de Cyril Laine.
Le pianiste de ces chansons marseillaises qu'on a entendues au début.
Voilà, qui est aussi compositeur et ça, il peut être considéré comme le fils d'Escaich.
Alors, ce sont les compositeurs qui viennent vers vous. Vous avez toujours une curiosité comme ça pour ce qui se passe aujourd'hui.
Écoutez, il faut donner de son temps pour l'actualité. Je vois pas pourquoi on ne donnerait pas la chance. Alors, les directeurs font bien de programmer des œuvres nouvelles, heureusement. Ouais. Voilà. Et puis nous devons, les artistes, de donner de notre temps, de nos qualités, si on en a, de donner le maximum de notre intérêt, je veux dire, pour les choses de notre temps. Je veux dire.
Bah, écoutez, non, mais tout le monde ne le fait pas. Donc,
c'est dommage.
Et c'est important pour ces compositeurs d'être portés par des grands chanteurs aussi et des noms qui aident à faire connaître leurs œuvres. Autre, d'ailleurs, ancien invité de cette émission, Vladimir Kosma, qu'on connaît évidemment pour ses musiques de films. Vous avez participé à la création de Marius et Fanny. Ça, c'était un bon souvenir.
Oh, ça a été
à Marseille.
Ça a été un merveilleux souvenir, merveilleux. Et d'ailleurs, j'ai eu une de mes plus belles émotions quant à la première, dans le cocktail qui a suivi dans les salons de l'Opéra de Marseille. Une dame vient vers moi, une dame d'un certain âge, très classe, très digne, et me dit « Monsieur, vous m'avez fait penser à Rému dans le rôle de César, donc. » J'ai dit « Madame, la comparaison est telle que je me permets de ne pas accepter votre compliment. C'est trop lourd à porter. Voilà, c'est pas possible. J'ai telle admiration pour ce monsieur. » Elle se rapproche de moi, elle me dit « Je vous redis que vous m'avez fait penser à Rému. Voilà. Je suis la fille de Rému, monsieur. »
Non.
Si. Là, évidemment, je me suis écroulé en larmes, là, je veux dire. Ma femme, passant par là, me voit pleurant, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» La dame dit que je... Et voilà Madame Lafont en train de pleurer à son tour, n'est-ce pas ? Donc, on était devant cette dame, pleurant, émue. C'est un grand moment. Puis Alania était là, remarquable Marius.
Il faut préciser, hein, parce que quand vous parlez de Rému comme ça, avec des larmes, eh bien que Jean-Philippe Lafont, et c'est peut-être une des raisons aussi de votre grande carrière sur scène à l'opéra, c'est que vous avez pratiquement hésité à vos débuts entre le chant et le métier de comédien.
Ah ça, vous pouvez le dire. Ça, ouais. C'est... L'été 1973 a été un été brûlant parce que je ne savais pas quoi faire en septembre. Où je rentrais au conservatoire de Paris d'art dramatique, où je rentrais à l'Opéra Studio de Paris. Et c'est Denise, encore une fois, qui m'a dit « Tu seras toujours à temps d'être comédien un jour. Ah, profite voilà. de la voix que tu as. » Et puis je la soupçonne un tout petit peu d'avoir pensé que c'était dommage tout le travail qu'on avait fait ensemble. Travail qui aurait été passé sous silence et perdu peut-être.
Mais vous avez toujours fait de l'opéra comme on fait du théâtre et pas seulement comme on fait de la musique.
Eh bien parfois ça m'a été reproché, à juste raison d'ailleurs, parce que j'ai parfois fait passer les personnages avant le bel canto et même il m'est arrivé de faire du mal canto au bénéfice des personnages. Je me disais, faire un vilain son au bénéfice de la portée justement de ce son, au bénéfice de la rugosité de ce personnage, c'est plus intéressant que de faire un beau son. Eh bien, ce n'est pas vrai. Jeunes gens qui m'écoutaient, aux jeunes filles, faites toujours de beaux sons et vous n'en serez que meilleur comédien, artiste sur la scène de l'opéra.
Voilà. On vous retrouve tout de suite, Jean-Philippe Lafont, dans le quatuor final, Marius, Fanny, César et Panis. Nice de cet opéra de Vladimir Kosma.
Prendre mon petit, mieux vaut m'arracher mon cœur, mes yeux, ma vie, pour me tuer. Pendant 2 ans, moi, mauvais.
c'est mon seul, mon unique, mon premier, mon dernier.
Marius, Fanny, César, Panis, autrement dit, Roberto, Alania, Angela, Giorgio, Jean-Philippe Lafont, mon invité, et Marc Barrard, on vient de vous entendre.
Remarquable Panis.
Voilà, encore un grand chanteur français. Avec vous, donc, dans cet opéra de Vladimir Kosma, Marius et Fanny, malheureusement, il va falloir presque nous quitter, Jean-Philippe. Vous allez repartir vers votre jolie maison de maintenant. C'est là que vous passez le plus clair de votre temps avec votre épouse, Martine.
Oui. Elle a créé une maison d'hôte à Oux, où habitez-vous? À Oux.
Ouais. Ça a l'air très joli, en
voilà,
tout cas.
Voilà, oui.
Près de la Beauce.
Elle en a fait une maison d'hôte d'une très grande qualité, c'est vrai. La bergerie de l'Aqueduc dans le 28, c'est vrai que c'est... voilà,
mais vous avez le goût, vous, de la vie champêtre?
Ah oui, ouais. je reviens à mes premiers amours. Ouais. Hein, mes parents étaient des gens de la terre, étaient des gens du peuple. Ouais. Et ils étaient pauvres, mais par contre très 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 riches d'autres choses.
Hein. Eh oui. Merci de nous en parler si bien ce matin, cher Jean-Philippe Lafont. Prochaine étape, donc, ce livre que vous écrivez sur l'opéra.
Sur ce qu'a été ma
vie,
sur ce qu'elle est aujourd'hui,
voilà.
Et surtout les rapports que j'ai avec tous les gens qui gravitent autour de moi et qui me donnent l'occasion de travailler avec eux. Donc, c'est un livre d'ensemble, c'est un livre de groupe. Il se passera beaucoup de choses dans ce livre.
Vous viendrez nous en parler.
Oui, aux éditions Larousse, c'est sympa. C'est eux qui m'ont demandé et je dois dire que je les remercie. Parce que c'est un très très beau cadeau qu'ils me font.
Et puisque vous avez bien voulu venir ce matin nous parler de votre carrière, de votre amour de l'opéra, mais aussi de votre amour grandissant toujours de la chanson française, on va peut-être se quitter avec encore une chanson que vous avez choisie pour nous et que vous allez chanter en direct pour les auditeurs. Sarah.
Monsieur Reggiani.
Monsieur Reggiani. Chanson écrite d'ailleurs par Moustaki.
Pour Reggiani. Oui,
pour Reggiani.
Monsieur Moustaki.
Monsieur Moustaki qui pensait, je crois, à Edith Piaf en l'écrivant.
Oui, en tout ça, sont tous ces monstres-là que j'essayerai...
Un tour de chant de chansons, peut-être.
Ah
à
oui,
venir.
Mais c'est prévu.
C'est prévu. Ah, voilà.
Je suis en train de mettre en place 20 à 25 chansons, il faut ça. Hein.
Voilà.
Je ne suis pas encore prêt pour ce nombre important. D'ici quelques mois, je serai prêt. Voilà.
Eh bien, Jean-Philippe Lafont, je vous laisse rejoindre le piano. Merci encore d'avoir été avec nous ce
Merci
matin.
Merci à vous, surtout.
Si vous la rencontrez bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, monsieur, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée, par les baisers, trop souvent mais trop mal donné, le teint blafard. Malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune, la femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les seins si lourds de trop d'amour. Ne porte pas le nom d'appât, le corps lassé, trop caressé, trop
trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure.
Patrick Villanueva au piano avec Jean-Philippe Lafont qui était ce matin mon invité. Je le remercie beaucoup et je vous recommande d'écouter ce disque de chansons de la guerre, la Grande Guerre en Marseillaise, qui est paru aux éditions Hortus avec en plus un texte de présentation de notre ami Martin Péné.
Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable.
J'aime pas le rock.
Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable.
J'aime pas le rock. Je vous dis que j'aime pas le rock.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Il n'aime pas le rock.
Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock.
Il n'aime pas le rock.
J'aborde le rock. Je méprise le rock. J'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable.
Oh mince, il aime pas le rock.
Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable.
Pourtant le rock c'est bad quoi.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock alors, ah non. Ah non, ça me dégoûte le rock alors, hein, j'aime pas ça alors.
Il n'aime pas le rock.
Ah moi j'aime que la danse guénoise de toute façon alors.
Et voilà, c'était la réponse de Jean-Yann au twist que nous avons écouté en début d'émission. J'aime pas le rock, Jean-Yann, en 1961. Il est midi 14 sur France Musique, c'est l'heure de retrouver notre chroniqueur Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
C'est pas vraiment un pionnier du twist, mais enfin, encore qu'il a fait tellement de choses, les Parisiennes, c'est
oui,
pas si loin que ça.
Non, absolument.
Dont vous nous parlez aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Claude Bolling.
Qui a été capable de mener de front, mais vraiment de multiples activités, quel qu'en soit le style musical. Alors, il est né en 1930 et le patronyme Bolling est d'origine scandinave. Je ne sais pas si vous le saviez.
Non, je ne le savais pas.
Voilà, dans sa prime jeunesse, eh bien, Claude montre d'abord son talent pour le dessin. Mais très vite, l'écoute de Duke Ellington, avec lequel il deviendra d'ailleurs très ami dans les années qui suivront, ou l'écoute d'autres pianistes comme Thomas Fatwaller ou Art Tatum, la musique prend le pas définitivement sur le dessin. Alors, il étudie activement le piano à ce moment-là, il entame des études de contrepoint et d'harmonie avec des maîtres prestigieux comme Maurice Duruflé, et sa maîtrise du piano jazz le fait jouer, entre autres, aux côtés de Lionel Hampton. Nous l'écoutons ici, au piano, dans l'une de ses compositions.
De la consommation, Claude Bolligny en 1974, vous nous en parlez aujourd'hui, Serge Laïc.
Et oui, alors à côté de ses activités de pianiste, on vient de l'entendre, de chef du Big Band qu'il crée en 1956, eh bien Claude Bolling se fait aussi un nom comme chef d'orchestre arrangeur pour plusieurs artistes. Alors il y a eu Boris Vian, le premier d'ailleurs, Dario Moreno et le fameux Si tu vas Dario, c'est Bolling qui avait fait les arrangements. Sacha Distel a ses débuts comme chanteur avec le célèbre Scooby-Doo, c'est encore Bolling l'arrangeur. Salvador, Trainé, Greco, mais aussi Brigitte Bardot, avec laquelle il enregistre la presque totalité d'un album en 1962. Et Claude Bolling se souvient bien de sa rencontre avec Bébé, qui par ailleurs le surnomme Dubol.
Brigitte Bardot était une copine d'école de ma famille Rennes, et qu'elles se sont retrouvées à Saint-Tropez, à une époque où j'arrivais à prendre quelques vacances. Alors, elle invite sa copine Irène à la Madrague. J'accompagne ma femme Irène à la Madrague. Nous avons sympathisé. Ça lui faisait plaisir de passer des soirées à chanter des chansons, à écouter les autres jouer, à faire. Et puis, quand on lui a demandé de faire un show de fin d'année, alors, forcément, elle s'est adressée à moi pour tout ce qui concerne la réalisation musicale d'un spectacle de ce genre, quoi. Brigitte aimait tellement le travail de répétition. Enfin, elle s'était vraiment prise au jeu. Et chaque fois qu'on avait une séance de travail, c'était une partie de plaisir pour elle. Alors elle était tellement assidue qu'un jour, où on avait une séance de travail chez moi à la maison, où j'habitais un immeuble à Boulogne, elle est arrivée en avance. Et comme moi je n'étais pas en avance, pour m'attendre, elle s'est assise dans l'escalier. Alors imaginez la tête des locataires de l'immeuble,
de vos voisins,
passant, montant l'escalier et voyant assise sur les marches Brigitte Bardot.
Baby don't love nobody but me, nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I am his sweet patootie and he is my loving man. Knows how to do his duty, loves me like no other can. That's why everybody loves my baby. But my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Thank you. nobody but me. That's plain to see. Now when my baby kisses me up on my rosy cheeks, I just let those kisses be. Don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Oh yeah.
L'accent anglais inimitable de Brigitte Bardot, ici accompagnée donc par Claude Bolling en 1962, Serge Laïc.
Voilà, alors on connaît tous la musique de Claude Bolling pour le film Borsalino, nous en reparlerons tout à l'heure, mais Claude avait abordé la musique de film pour le grand écran d'abord à la fin des années 50, et entre autres avec Le Jour et l'Heure, c'était en 1963, un film de René Clément, donc déjà une belle musique qu'il avait fait pour ce film. Sa contribution au petit écran fut également très fructueuse, notamment quand il composera la belle musique de L'étrange Monsieur Duvalier. Claude Bolling se souvient de son travail pour Victor Vicasse, le réalisateur de cette série télévisée.
J'avais beaucoup travaillé pour lui avec Les Brigades du Tigre, et quand il a voulu réaliser cette série de L'étrange Monsieur Duvalier, il a fait appel à moi pour en réaliser les musiques, et j'ai imaginé ce thème sifflé.
Alors, qui est-ce qui était le siffleur dans ce thème?
Le siffler, c'était un violoniste de l'opéra. C'est Michel Gannot, qui était violoniste à l'opéra et qui dirigeait des séances pour moi, qui jouait souvent du violon dans mes enregistrements. Et je savais qu'il sifflait. On a fait des essais, c'était concluant, donc il a enregistré en sifflant le thème de L'étrange Monsieur Duvalier, Michel Gannot, violoniste de l'opéra.
L'étrange Monsieur Duvalier de Claude Bolling, avec notamment le siffleur et violoniste Michel Gannot, un de ces musiciens de l'opéra qui ont fait les belles heures des studios de variété.
Serge et alors, Laïc, on peut superbement siffler comme violoniste, mais est-ce que le contraire est possible si facilement? Je n'en suis pas sûr. Alors, Claude Bolling est aussi le créateur en 1964 du fameux groupe vocal que beaucoup connaissent, que tout le monde connaît, les Parisiennes, et de leur célébrissime chanson « Il fait trop beau pour travailler ». L'enregistrement en studio de leur premier disque 45 tours fut réalisé, entre autres, avec Nicole Croisy et Daniel Icari, devenu un peu plus tard célèbre avec le fameux concerto pour une voix de Saint-Preux.
Café
Claude Bolligny et les Parisiennes en 1966. On en avait d'ailleurs parlé lorsque j'avais eu moi-même la joie de recevoir ici Claude Bolligny il y a exactement 10 ans, Serge Elaïque.
En 2007, absolument. Alors, dans ce portrait de Claude Bolligny, on ne peut pas ne pas évoquer ses nombreux disques de crossover qui mêlent jazz et musique classique, et notamment sa suite pour flûte célèbre avec Jean-Pierre Rampal, et qui avait d'ailleurs été classée numéro 1 au hit parade aux États-Unis. Alors, quant à sa musique pour le film Borsalino, elle a fait le tour du monde, reprise par de nombreux artistes. Bolling lui-même l'avait réorchestrée pour son big band, qui a fêté son 60e anniversaire l'an dernier, en 2016.
Salino par Claude Bolligny et son big band dans cette version revue enregistrée donc en 1996, Serge.
Alors oui, Claude Bolling, en 2014, a pris la décision de se retirer et de transmettre la direction de son orchestre à son batteur, Vincent Cordelette, à ses côtés depuis les années 80. Alors d'autre part, c'est à l'exceptionnel pianiste Philippe Milanta que Claude a confié donc sa place. Et notez-le bien, alors le big band de Claude Bolling donnera deux concerts, les 1er et 2 juin à 21h30 au Jazz Club du Méridien Étoile de la Porte Maillot. Voilà. Merci Benoît et à bientôt.
Merci Serge Elaïque pour cette passionnante chronique. C'est ainsi que s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Julien Calvas avec Thibaut Nassimben, réalisation Christine Amado. La semaine prochaine, je vous proposerai un portrait de Maurice Baquet en compagnie d'Hervé Baudot qui vient de lui consacrer un très joli livre de textes et de photographies. Bon week-end à tous sur France Musique.